Depuis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher. Et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans les jardins suspendus. Cette semaine encore, pour une préparation à la Journée internationale du vivre ensemble en paix. En mars, nous causons des armes et cette journée, ça sera le 15 mai 2024, naturellement, à Aubenas. Le cow-boy, comme son nom ne l'indique pas, bosse en ville sous son chapeau. Le cow-boy, c'est l'Occident viril, né de la terre et des bestiaux, contre l'Occident décadent de Babylone et ses consœurs, le rat des champs qui vient croûter de l'ortolan dans la demeure du rat de ville. Les décadents ne sont pas mécontents de le voir arriver pour instaurer le minimum de paix requis pour la poursuite de leurs petites affaires, pas bien légales, pas bien proprettes. Si bien que les méthodes un peu expéditives du cow-boy se révèlent tout à fait acceptables, pour ne pas dire séduisantes. Les méthodes du cow-boy sont à prendre et à comprendre dans le miroir des méthodes des gangsters. Il n'y a que l'intention qui compte, du moins, c'est ce que nous voulons croire. Si bien que vous retrouvez des images de cow-boy sur les shérifs et les vétérans de toutes les guerres perdues, aussi bien que sur le bandit de grand chemin, braqueur de diligence, de train, de banque, selon la nature et le nombre des chevaux. Les cow-boys, comme tous leurs clones, sont pauvres, voire très pauvres. Mais la dextérité des armes les élève parmi les riches, voire les très riches, et cette situation économique et sociale est suffisamment originale pour être notée. C'est dans ces limbes relationnels que les cow-boys fréquentent les mafieux, les corrompus et tous les parvenus ou notables possibles de la politique, de la religion et des élites en général. Ils font, les cow-boys, le ménage comme des soubrettes mais aussi coups. Au fusil à répétition, ils font parler la poudre. Le vacher se retrouve au bord de la piscine, un cocktail à la main, mais toujours son langage de charretier. Le colt drague le fume-cigarette. C'est glamour et thriller, barillé ou roulette russe. Si le cow-boy arrive et se balade en ville, c'est qu'il sort de la zone à défendre, de l'empire imprécis, de la frontière difficile à fixer, qui sépare les Yankees des natifs. Autant dire qu'il en a vu de toutes les couleurs, qu'on ne la lui fait pas, et qu'il suffit d'un signe pour le mettre au travail, peacemaker since 1847. Tant qu'il bosse pour lui, la veuve et l'orphelin, et surtout l'orpheline, le cow-boy nous est bien sympathique, il reste raisonnable, il garde la tête froide. Dès qu'il se met au service d'une cause ou d'un groupe, ça part en autre boudin. Dès qu'il commence à avoir des idées, il en a de mauvaises. Le gardeur de troupeaux, par nature solitaire sur la terre et juste sous le ciel, devient idiot en devenant le bras armé d'un parti quel qu'il soit. Une famille, un clan, une race, une nation lui mettent le grappin dessus et le voilà spadassin sous contrat ou sicaire, tueur à gages ou mercenaire. Au lieu de deviser et de délibérer peinard avec son chien au bord de la rivière en rangeant son lasso. Il donnait un sérieux coup de main, le voilà terroriste, il était résistant, il devient le larbin, exécuteur des basses œuvres. Le cow-boy qui n'avait qu'à parer les complots des méchants, les coups du sort que même la nature réserve, se voit rendu en ville à la multiplication des intrigues, à l'intersectionnalité des luttes, au combat de coq, à l'enflement des égaux, des richesses, des puissances. Il vend plusieurs fois son âme, ment comme un arracheur de dents, avant de se rendre compte qu'il ne tire pas plus vite que son ombre, et surtout pas forcément le premier.
I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
Je vous ai choisi un petit peu de lecture, c'est Alan Lemay, La prisonnière du désert, en version originale The Searchers, les chercheurs. C'est le livre qui sera adapté au cinéma par John Ford avec le même titre, La prisonnière du désert.
Il venait de finir le dîner avant le coucher du soleil, quand Henry Edwards se leva pour aller jeter un dernier coup d'œil à l'extérieur de la maison. Il tenait sa petite carabine, espérant que le reste de la famille s'imaginerait qu'il avait l'intention de tirer un ou deux tétras, une éventualité fort peu probable dans les alentours immédiats. Il avait laissé son ceinturon accroché à la patère près de la porte, mais avait glissé son lourd six-coups sous sa chemise, entre son pantalon et son ventre. Juste à côté, Martha faisait la vaisselle dans l'évier en bois, tandis que leurs deux filles, Lucie, une adolescente de 17 ans déjà, et Debbie, 10 ans à peine, la séchait et la rangeait. Il ne voulait pas les affoler, pas avant d'avoir lui-même compris ce qui avait attisé cette crainte d'un danger pour la nuit à venir. « Henri, lança Martha, prends ton pistolet. » Ses mains étaient occupées, mais ses yeux fixaient le holster vide, oublié à la vue de tous, et elle plaisantait à propos de la feinte de son époux. Voilà ce qui était merveilleux chez Martha. À 38 ans, elle paraissait plus que son âge par certains côtés, en particulier à cause de ses mains. Sous d'autres angles, elle semblait beaucoup plus jeune, cela grâce à son sens de l'humour. Elle pouvait s'esclaffer à propos de choses que d'autres gens auraient jugées plus ou moins amusantes, voire pas du tout, de telle sorte qu'Henri revoyait souvent en elle la délicieuse pétulance de la jeune fille qu'il avait épousée 20 ans plus tôt. Il ronchonna et sortit. Au moment où il déboucha de la cuisine, leurs deux fils se trouvaient sur la galerie à l'arrière de la maison. Hunter Edwards, prénommé ainsi car c'était le nom de famille des parents de Martha, avait 19 ans et mesurait la même taille que son vieux pa. Il était assis par terre, la tête appuyée contre le mur en adobe, et laissait ses pensées vagabonder si loin que sa bouche pendait grande ouverte. Seuls ses yeux bougèrent quand il les tourna en direction de la carabine. Par sens du devoir, il demanda « Pa, tu veux un coup de main ?»« Non. » Ben, 14 ans, était en train de tailler une spatule à beurre. Il se redressa d'un bond et brossa les copeaux de bois sur son blue jean. Son père lui fit le signe des Indiens des Grandes Plaines. Il posa le poing contre son épaule et le lança vers le sol, ce qui signifiait « Assis, ne bouge pas ». Ben réattaqua son ouvrage. « Oublie pas de balayer toutes ces chutes », lui glissa Henri. « Pas, j'y manquerai pas. » Ils regardèrent leur père s'éloigner à longues et tranquilles enjambées, bien assuré dans ses bottes à talons plats. Il contourna les corrales et disparut leur champ de vision. « Qu'est-ce qu'il a en tête ?» s'inquiéta Ben. « Il n'y a aucun gibier par là-bas. »« Pas à moins d'un kilomètre. » Hunter hésita. Il connaissait la réponse, mais comme son père, il ne voulait rien dire pour l'instant. Il finit par hasarder un « je sais pas ». Hunter entendit, provenant de l'intérieur de la cuisine, le bruit d'une allumette qu'on grattait. Il régnait encore une telle clarté à l'extérieur de la maison qu'il était difficile d'imaginer combien la cuisine, entre ses murs épais, se trouvait plongée dans l'obscurité. N'empêche, il le savait, sa mère était en train d'allumer une lampe. Il l'appela à mi-voix. « Maman, pas maintenant. »
Juste avant le carnage, il me reste à remercier Sophie Lefebvre qui lit tellement bien Alan Lemay. La prisonnière du désert, c'est chez Totem. Il me reste à remercier également Landy Unger, l'ange musical des Jardins Suspendus, qui nous a fait entendre George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, double album The Beatles, 22 novembre 1968. Il me reste enfin, et surtout, à remercier Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.